Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton
Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, pour ce contre-histoire printanier, nous allons retrouver Michael Moore. Michael Moore, cet Américain si particulier, qui se bat depuis un quart de siècle, bien tassé, contre la bêtise, la lâcheté, le racisme, et qui a tracé, mine de rien, le chemin d'Obama. Écoutons Michael Moore. Il y aura de nouveaux attentats terroristes. On nous en rebat les oreilles tous les jours. Le programme de sécurité nationale de beaucoup de pays n'offre aucune protection sérieuse. Si vous voulez vraiment être en sécurité, écoutez plutôt quelques conseils au chef d'État. Quand vous organisez un coup d'État et que vous renversez un gouvernement sorti des urnes, tâchez de le faire proprement. N'obligez pas la population du pays où vous intervenez à vivre sous la botte d'une dictature pro-américaine, comme nous l'avons fait au Chili, en Indonésie, au Guatemala, etc. Ce genre de régime sert essentiellement les intérêts des multinationales américaines qui piétinent les droits des autochtones. Voilà bien le type de comportement qui amène les fractions récalcitrantes de la population locale à nous détester farouchement. Je sais, ces gens-là sont bien susceptibles. N'empêche que ça finit souvent par nous retomber sur la tronche. Alors, peut-être que la meilleure façon de répandre la démocratie dans le monde serait de commencer à respecter les choix démocratiques des habitants des autres pays. Et soutenir les dictateurs n'est pas la meilleure façon de nous faire aimer par les gens qui vivent sous leurs bottes. Nous avons l'habitude de nous associer systématiquement avec des types pas très fréquentables. Nous sommes encore plus doués pour recruter des losers qu'un producteur télé. Saddam et la famille royale saoudienne n'en sont que deux exemples parmi tant d'autres. Les gens qui souffrent sous le joug de ces despotes savent parfaitement que c'est nous qui sommes responsables de leur oppression. Quand vous essayez de venir en aide à une dictature latino-américaine, tâchez de le faire sans laisser assassiner trop d'évêques et de religieuses. Ça tend à irriter les indigènes, qui sont souvent très croyants. Et certains finissent par nourrir d'étranges idées de meurtre à notre encontre. Et quand vous essayez d'assassiner le chef d'État cubain, tâchez de ne pas vous tromper de cigares explosifs. Les attentats ratés contre Castro, surtout après avoir passé des décennies à soutenir ses prédécesseurs corrompus, ces attentats n'ajoutent pas à la crédibilité des États-Unis. Utile de chercher à savoir pourquoi des centaines de millions de personnes sur trois continents, des rivages atlantiques du Maroc à l'archipel des Philippines, sont aussi hostiles à Israël. Je ne parle pas des antisémites classiques tels qu'on trouve sur les sept continents, Antarctique compris. Non, ce que je souligne, c'est l'impression fort répandue que les Américains soutiennent Israël dans son entreprise d'oppression des Palestiniens. Mais comment diable les Arabes ont-ils pu se mettre une telle idée dans la tête? Peut-être que ça date du moment où un petit Palestinien a vu un missile lancé par un hélicoptère Apache s'abattre sur la chambre de sa petite sœur et pulvériser la pauvre enfant en 1000 morceaux. Vraiment, quelle susceptibilité! Il y a des gens qui se fâchent pour un rien. C'est quand même pas une raison pour danser dans les rues quand le World Trade Center s'effondre. Bien sûr, de nombreux enfants israéliens ont également été victimes du terrorisme palestinien. On pourrait penser que face à cette violence, tous les Israéliens n'auraient qu'une envie, effacer le monde arabe de la surface de la terre. Mais il n'en est rien. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur conscience, beaucoup d'Israéliens savent que leur pays a tort et qu'ils feraient la même chose que les Palestiniens s'ils étaient de l'autre côté du Manche. En tout cas, j'ai une idée pour mettre fin aux attentats suicides. Donnez aux Palestiniens quelques escadrons d'hélicoptères Apache et laissez-les s'empailler avec Israël sur un pied d'égalité. Aux 4 milliards de dollars qu'Israël reçoit chaque année des États-Unis, ajoutez 4 milliards de dollars par an pour les Palestiniens. En équilibrant la balance, on retrouverait peut-être un peu plus de calme. Vous êtes bien sur Canal Sud. Merci à vous. Et c'est contre-histoire. 5% des habitants de la planète, c'est-à-dire nous, Américains, consomme 25% des ressources énergétiques de la planète et 16% des pays riches, essentiellement les États-Unis, l'Europe et le Japon, consomment 80% des produits fabriqués dans le monde. Cette gloutonnerie passe mal auprès de certains de nos congénères et ils aimeraient que ça change. Si les ressources viennent à manquer à cause de notre voracité, il y a tout un tas de gens qui vont pas être contents. Ils pourraient finir par se dire « Et comment ça se fait qu'on survit avec $1 par mois pendant que ces goinfres se la coulent douce ?» Certes, ce n'est pas notre faute s'ils surviennent avec $1 par mois et si nous pouvions, nous leur ferions certainement cadeau de 50 cents de rabe. Mais bon, Dieu a béni l'Amérique. Dieu a béni l'Amérique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Offrons un verre d'eau à l'humanité. Ce sont 1,3 milliard de personnes qui n'ont pas accès à un verre d'eau potable. 1,3 milliard. Ça fait un sacré nombre de soifards. Allez les mecs, payez-leur un verre. Si ça suffit pour les empêcher de venir me faire la peau, c'est pas cher payé. Vu notre potentiel économique et technologique, nous n'avons aucune excuse pour ne pas nous préoccuper que chaque habitant de cette planète puisse vivre dans des conditions d'hygiène et de sécurité minimales. Pourquoi ne pas lancer un programme mondial d'accès universel à l'eau potable en 5 ans ? Qui aurait encore envie de nous assassiner ? Alors, offrez à tous ces miséreux un verre d'eau potable. Rajoutez là-dessus quelques chaînes câblées et vous allez voir qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils déborderont d'amour pour nous. Et surtout, n'utilisez pas la méthode qui consiste à faire privatiser leur eau par Nestlé et à la leur revendre à prix d'or, comme ça se pratique dans pas mal de pays.
Que disent les vieux à la retraite ? On ne bossera pas jusqu'à 100 ans. Que disent les vieux à la retraite ? Même si les femmes vivent plus longtemps. On veut poser nos bagages, un peu de respect pour notre grand âge. On veut poser nos bagages pour préparer l'ultime voyage.
Et puis, les gens devraient pouvoir acheter les produits qu'ils fabriquent. C'est un certain Manuel de Monterrey, au Mexique, qui vient de construire votre nouvelle Ford. Mais l'ami Manuel ne pourra jamais se payer lui-même une Ford. On comprend qu'il éprouve une légère irritation à notre égard, le pauvre. Et cette ouvrière du Salvador, qui gagne 24 cents pour chaque t-shirt de la NBA à $140 pièce, vous croyez qu'elle est contente ? Et les travailleurs chinois qui gagnent 13 cents de l'heure pour fabriquer ces chouettes jouets pour Disney, ou ces salariés du textile qui produisent des vêtements au Bangladesh, un pays où même les ouvrières enceintes sont parfois battues quand elles ne respectent pas les normes de productivité. La prospérité des États-Unis date du moment où les travailleurs américains ont commencé à être suffisamment bien payés pour pouvoir s'acheter des maisons, des automobiles et des chaînes stéréo qu'ils avaient eux-mêmes construites ou fabriquées. C'est comme ça qu'ils sont devenus satisfaits de leur sort, au lieu de penser à poser des bombes et à faire la révolution. Le génie d'Henry Ford, ce n'est pas seulement d'avoir inventé la chaîne de montage, c'est d'avoir songé à payer tous ses travailleurs $5 par jour, ce qui était une jolie petite somme à l'époque. Et en vendant ses voitures suffisamment bon marché, il s'assurait que chacun de ses salariés pouvait s'en acheter une. Pourquoi les entreprises américaines, dès qu'elles sont à l'étranger, oublient-elles cette leçon ? Ça finira par leur coûter très cher. Elle nous explique que si elles payent leurs travailleurs étrangers une misère, c'est tout bénef pour le consommateur américain, qui dispose ainsi de produits bon marché. Mais la vérité, c'est qu'elles ont délocalisé leur production pour empocher encore plus de profits. Les capitalistes américains s'en tiraient fort bien quand ils produisaient aux États-Unis même. Henry Ford et ses contemporains étaient extrêmement fortunés déjà. C'est toujours Contre-Histoire sur Radio Canal Sud 92.2. Mais nos nouveaux riches ne se contentent pas de vouloir simplement être riches. Ils sont taraudés par un désir inextinguible, un désir permanent et presque inhumain, de gagner plus et plus et toujours plus. Ils ne connaissent pas le mot « assez ». Le résultat de cette voracité insatiable, c'est que d'autres Américains périront un jour aux mains de terroristes enragés du tiers-monde, obligeant les manias des multinationales à partager leurs richesses avec ceux qui travaillent pour eux dans des pays lointains. C'est la meilleure façon d'assurer notre propre sécurité.
Que disent les classes ouvrières? On en a marre de ces salaires. Que disent les classes ouvrières? On ne bossera pas au bout de la terre. On n'en peut plus de ces patrons qui veulent toujours plus de pognon. On n'en peut plus de ces patrons. Ils finiront en saucisson.
Et l'esclavage des enfants? Vous savez, comment sont les parents? Ils préfèrent voir leurs enfants aller à l'école que bosser dans un bagne industriel. Pendant que votre progéniture va en classe avec une banane dans son cartable pour le goûter, en Équateur, des gosses de 10 ans accompagnent leurs parents dans les plantations de bananes où on les fait trimer pour rien. Avec le chlordécone en plus. Si quelqu'un ose se plaindre, on vire les gosses et les parents sont censés assumer la charge de travail supplémentaire. Qui croyez-vous qui va payer les pots cassés quand ces enfants exploités deviendront des adultes enragés? Et puis quand nous tuons des civils, n'appelons pas ça des dommages collatéraux. Quand ce sont eux qui tuent des civils, nous appelons ça du terrorisme. Mais quand nous bombardons l'Irak et massacrons plus de 6000 civils, nous demandons qu'on nous excuse pour cette malencontreuse bavure. Al-Qaïda bombarde le World Trade Center et fait 3000 morts, c'est du terrorisme. Mais de quel droit lâchons-nous des bombes sur la population civile irakienne? Ces pauvres gens menaçaient-ils notre existence? Je croyais que seule la légitime défense pouvait justifier la mort de notre prochain. Mais peut-être que j'ai mal compris. Évidemment, il est difficile d'éviter de faire des victimes civiles lorsque même nos bombes intelligentes deviennent stupides. En Irak, 10% de nos missiles se sont trompés de cible, rasant des maisons, des souks et des boulangeries, au lieu d'anéantir les systèmes de défense anti-aérien irakiens. Le pire, c'est que certains de ces projectiles intelligents ne sont même pas tombés en Irak, mais sur le territoire de l'Iran, de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Oups, désolé. Nous continuons contre histoire. Sur Canal Sud. Et quand vous proclamez fièrement « mission accomplie », essayez d'être certain que c'est bien le cas, sans quoi vous risquez de devoir rapatrier beaucoup plus de cadavres que prévu. À un moment ou à un autre de la guerre du Vietnam, Kennedy, Johnson et Nixon ont tous prétendu que les communistes étaient en fuite, vaincus ou anéantis. Et on nous parlait sans arrêt de la lumière au bout du tunnel. 58 000 cadavres de GIs plus tard, sans parler de 4 millions de morts vietnamiens, cambodgiens et laotiens. Nous avons fini par nous rendre compte que la seule façon d'accomplir la mission était de déguerpir vite fait. Nous n'avons encore présenté aucune excuse à personne pour cette hécatombe. Quelque chose me dit que les pauvres de la planète n'ont pas oublié cette mission.
Que disent les jeunes en colère? Nous le fardeau de la nation. Que disent les jeunes en colère? Nous ferons la révolution. On veut des emplois pour les jeunes, diplômés ou non qualifiés. On veut des emplois pour les jeunes, de banlieue ou des beaux quartiers.
Il y a une méthode sûre et efficace de vraiment promouvoir la paix et la sécurité aux États-Unis. Elle consisterait à démanteler les armes de destruction massive encore en possession de notre pays, qui, grâce à elle, a fait plus de victimes dans le monde que tous les autres membres du club nucléaire. Oui, détruisant nos propres armes de destruction massive, ici même aux États-Unis. Une fois nos arsenaux démantelés, invitons des inspecteurs des lieux. Ce n'est que quand nous aurons passé toutes nos bombes atomiques à la moulinette que nous aurons le droit d'exiger de la Corée du Nord, de l'Inde, du Pakistan, d'Israël et des autres qu'ils détruisent leurs armes nucléaires. Mais ça nous fera faire des tas d'économies. Et il nous restera quand même suffisamment d'armes ultra sophistiquées pour exterminer sous les bombes la population de notre choix, ou battre, à plate couture, un quelconque état voyou. Nous devons immédiatement désavouer la stratégie de la guerre préventive. Il faut absolument refermer le couvercle de cette absurde boîte de Pandore. L'idée chère à Bush et Cheney, qu'il est parfaitement moral de massacrer les gens au cas où ils auraient un jour l'intention de nous attaquer. Ça vous rappelle rien ? Cette idée n'est pas la meilleure façon de convaincre le reste de l'humanité de contempler la bannière étoilée d'un œil amical et serein. Cessez de vous comporter comme un bandit de grand chemin qui gueule « Main en l'air, jetez vos armes et refilez-moi votre pétrole !» Ou plutôt, laissez tomber vos discours à la con sur la démocratie et la reconstruction et emparez-vous directement des puits de pétrole. Ça ne sera sans doute pas très moral, mais ça sera certainement moins coûteux et plus sincère. Et ça vous éviterait de bombarder des milliers de civils à l'aveuglette. Contre-histoire sur 92.2, Canal Sud. Et cessez de terroriser vos concitoyens avec le Patriot Act. Et tant que vous y êtes, lisez donc 1984 de George Orwell. Et arrêtez de baptiser vos projets de loi avec des noms qui sentent le totalitarisme à plein nez. Si vous n'avez pas le temps de lire Orwell, je vous cite quelques-uns de mes passages favoris pour que vous les colliez sur votre frigo. Les deux buts du parti sont de conquérir toute la surface de la Terre et d'éteindre une fois pour toutes les possibilités de pensée indépendante. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif auquel on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail et des rations plus réduites. On pouvait leur faire accepter les violations les plus flagrantes de la réalité parce qu'ils ne saisissaient jamais entièrement l'énormité de ce qui leur était demandé et n'étaient pas suffisamment intéressés par les événements publics pour remarquer ce qui se passait. Les capitalistes possédaient tout et tous les autres hommes étaient leurs esclaves. Ils possédaient toute la terre, toutes les maisons, toutes les usines, tout l'argent. Et ils pouvaient, si quelqu'un leur désobéissait, les jeter en prison ou lui enlever son gagne-pain et le faire mourir de faim. Quand une personne ordinaire parlait à un capitaliste, elle devait prendre une attitude servile, enlever sa casquette et donner du « Monseigneur ». C'est vrai, quoi. On va finir par avoir l'air raciste si on n'agresse que des pays de bronzés, même pas chrétiens. Quand la France et l'Allemagne ont commencé à nous faire chier, on aurait dû les pilonner aussi sec. Et pour finir, tâchons de montrer l'exemple. Vous vous rappelez ce vieux prétexte, comme quoi il faut traiter les gens comme vous aimeriez vous-même être traité. Eh bien, ça marche toujours. Quand vous traitez les gens décemment, dans 99,9% des cas, ils vous rendent l'appareil. Et si on appliquait cette règle inédite à notre politique étrangère? Si on commençait à se faire la réputation d'un pays qui cherche avant tout à aider les gens, au lieu d'exploiter leur force de travail ou leurs ressources naturelles. Un pays prêt à partager son incroyable richesse, même si ça signifie que nous devrons nous priver d'une partie du confort exceptionnel auquel nous sommes habitués. Comment les pauvres et les désespérés de la planète réagiraient-ils? Est-ce que cela ne diminuerait pas sensiblement la probabilité que nous soyons la cible d'attaques terroristes? Est-ce que le monde ne serait pas plus agréable à vivre? Est-ce que ce n'est pas tout simplement notre devoir? Le fait est que nombre d'individus prêts à se faire sauter pour vous zigouiller est extrêmement faible. Bien sûr, s'il existe des fanatiques prêts à mourir pour leur cause, ils arriveront à leur fin un jour ou l'autre. Mais des gens comme ça, il y en a partout. Il y en a toujours eu. Ce n'est pas contre l'Afghanistan, l'Irak, la Corée du Nord, la Syrie ou l'Iran que nous devons mener une guerre contre le terrorisme. Mais c'est bien contre nos instincts les plus obscurs. Canal Sud 92.2. Il est temps de respirer bien fort et de prendre un peu de recul. Vous, oui, vous, personnellement, qu'est-ce qui peut vous pousser à tuer quelqu'un? 3 000 morts? 4 millions? En tout cas, quelque chose de tellement horrible que vous en perdriez complètement la tête. Bon. Mais si vous arrivez à comprendre quelles sont les véritables causes du terrorisme et que vous vous rendez compte que vous et moi faisons partie de ces causes, est-ce qu'il n'est pas plus intelligent d'arrêter le massacre? À quoi sert de déclencher une guerre qui disperse les membres d'Al-Qaïda aux quatre coins de la planète? Et quel message faites-vous passer aux peuples musulmans qui ont vécu sous la botte d'un régime répressif que vous avez soutenu un jour ou l'autre? On assiste à un véritable printemps du terrorisme. Et c'est nous qui en semons généreusement les graines au Moyen-Orient. Est-ce vraiment comme ça que nous obtiendrons un monde moins dangereux? La véritable garantie de la sécurité, c'est de s'assurer que tous les habitants de cette planète puissent satisfaire leurs besoins fondamentaux et nourrir l'espoir d'une vie meilleure. Ou du moins, essayons d'être certains que ce n'est pas nous qui détruisons cet espoir.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicotard. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
J'espère que vous ferez bon usage des suggestions de Michael Moore. Et avant de refermer ce livre, je vais vous lire la page de garde, qui est un certificat de conformité à la bassesse gouvernementale des USA et d'ailleurs. Alors sur cette page, qui bénéficie d'un bel encadrement, ombré, en relief, etc., et d'un timbre de l'US Department of Homeland Security. Contenu approuvé. Le contenu de cet ouvrage a été approuvé par le Département de la Sécurité intérieure. Il ne contient pas d'appel à la sédition ou à la trahison. Chacun des mots qui le composent a été examiné et analysé par une équipe d'experts antiterroristes pour s'assurer qu'il n'apporte aucun soutien ni aucune assistance à l'ennemi. Ce livre ne contient aucun secret d'État et ne rend public aucun document susceptible de porter tort aux États-Unis d'Amérique et à leur commandant en chef. Aucun message caché à l'adresse de terroristes ne s'y trouve. Il s'agit d'un bon livre chrétien, rédigé par un bon patriote américain qui sait que nous l'écrabouillerons comme un vulgaire cafard s'il fait mine de sortir du rang. Canal Sud 92.2. Si vous avez fait l'acquisition de ce livre, nous sommes tenus de vous informer en vertu de la section 29A du USA Patriot Act que votre nom apparaît désormais dans une banque de données d'individus potentiellement suspects au cas où l'état d'urgence devait être déclaré. Ce qui, bien sûr, n'arrivera jamais. Votre inscription sur cette liste vous qualifie automatiquement pour la grande loterie, dont les 10 heureux gagnants se verront offrir une cuisine en formica entièrement équipée avec les compliments de Kitchen Magic. Si vous êtes un authentique terroriste et que vous avez acheté ce livre dans une librairie dans l'espoir d'utiliser les informations qu'il contient, soyez bien conscient que nous savons déjà qui vous êtes. La page que vous êtes en train de parcourir en ce même instant est faite d'un papier ultra sensible qui enregistre les empreintes digitales et les transmet automatiquement à notre quartier général de Kissimmee, en Floride. N'essayez même pas d'arracher cette page, c'est trop tard! N'essayez pas de vous enfuir, espèce d'agent stipendier de l'axe du mal, vous êtes cerné! Plus un geste, lâchez ce livre. Main en l'air. Vous avez le droit de... Et puis merde, vous n'avez aucun droit. Vous n'existez même plus. Et dire que si vous aviez apprécié à sa juste valeur notre magnifique civilisation, vous seriez aujourd'hui l'heureux propriétaire d'une cuisine anti-tâche entièrement équipée. Signé Tom Ridge, ministre de la Nation en armes. Et George W. Bush, commandant en chef de la patrie en danger. Les extraits que je vous ai lus aujourd'hui et la semaine dernière viennent bien sûr de l'œuvre de Michael Moore, Tous aux abris, édité en France à la découverte, ainsi que ses autres œuvres, Dégraissez-moi ça, Petite balade dans le cauchemar américain, Mike contre-attaque. Bienvenue aux états stupides d'Amérique. Voilà, bonne découverte. Et vous retrouverez ces deux émissions et toutes les autres de Contre-Histoire, vous les retrouverez sur canalsud.net. À bientôt.
À la retraite, on ne bossera pas jusqu'à 100 ans. Que disent les vieux à la retraite? Même si les femmes vivent plus longtemps, on veut poser nos bagages, un peu de respect pour notre grand âge. On veut poser nos bagages pour préparer l'ultime voyage.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Disent les classes ouvrières, on en a marre de ces salaires. Que disent les classes ouvrières, on ne bossera pas au bout de la terre. On n'en peut plus de ces patrons qui veulent toujours plus de pognon. On n'en peut plus de ces patrons, ils finiront en saucisson.
Elle est de retour à la grève, ton nicotine, ton nicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Disent les jeunes en colère, nous le fardeau de la nation. Que disent les jeunes en colère, nous ferons la révolution. On veut des emplois pour les jeunes, diplômés ou non qualifiés. On veut des emplois pour les jeunes de banlieue ou des beaux quartiers.
Elle est de retour à la grève, tournicoti, tournicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Que disent les gens sans papier ? On nous maltraite dans vos églises. Que disent les gens sans papier ? Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. On doit pouvoir vivre ensemble, élever nos gosses dans vos écoles. On doit pouvoir vivre ensemble, mais nous ne sommes pas nés sur ce sol.
Elle est de retour à la grève, tournicoti, tournicota. Elle est de retour à la grève, on ne votera pas pour toi.
Les forces de l'ordre,
on n'en peut plus, y a trop de manifs.
Que disent les forces de l'ordre?
Nous sommes en manque d'effectifs. Il nous faudrait plus de casques pour pouvoir faire bien notre travail. Il nous faudrait des matraques pour mettre la France sur les rails.
Elle est de retour à la grève, tournicotine, tournicota. Elle est de retour à la grève.